Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous pour le 10h midi sur Sud Radio, on est en direct et en direct également sur Facebook avec un Facebook Live, donc vous pouvez nous voir, regardez ce qui se passe dans le studio, on est là avec vous. Je vous rappelle que ce soir, Sud Radio est à Souillac dans le Lot, les vraies voix lancent le vrai grand débat avec Christophe Bordet, Philippe David et Philippe Bilger, et ils seront également en direct tout de suite après l'émission entre 12h et 13h et entre 17h et 20h dans une salle communale du Bellay, boulevard Malvy pour ceux qui sont à Souillac. Alors pour débattre et commenter aujourd'hui l'actualité, Richard Orlinski, bonjour, vous êtes artiste contemporain, sculpteur, musicien, auteur, vous êtes également sur scène, vous avez un one-man show Tête de Kong qui est en tournée dans toute la France. Vous êtes, pour ceux qui vous connaissent, qui ne vous connaissent pas, vous sculptez vous avez été connu par des King Kong énormes de couleurs. Vous êtes là avec nous parce que vous êtes un citoyen qui vous exprimez sur l'actualité également. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Judith.
Bonjour.
Timothée Gaget, conseiller en communication. Vous dirigez l'agence Archer. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain contre la Corruption.
Bonjour.
Demain, irez-vous manifester ou irez-vous débattre? Vous savez qu'il faudra choisir entre la manif ou le grand débat. Donc dites-nous, 0826-300-300. Emmanuel Macron est à Souillac aujourd'hui. Un président en campagne, c'est la une du Parisien ce matin. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question de savoir si le président est en train de refaire campagne. Et puis les flashballs, faut-il les interdire? C'est en tout cas la demande qui a été faite par le défenseur des droits, Jacques Toubon. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Judith, un coup de cœur.
Oui, mon coup de cœur est pour Gérard Larcher, qui, en présentant ses vœux, a dit qu'il faudrait revenir sur l'interdiction du cumul des mandats, qui était, à son avis, et au mien, une des causes de la déconnexion de beaucoup de parlementaires avec ce qui se passe en ce moment en France.
Ouais, Il fallait choisir entre maire ou député, et effectivement, les deux...
Voilà. Et les sénateurs vont être bientôt logés à la même enseigne. Alors, je trouve ça courageux, parce que ça va pas du tout dans le sens du vent. C'est complètement antidémagogique et c'est extrêmement fondé, parce que pour fréquenter assidûment beaucoup de députés, je trouve que nombre d'entre eux devraient savoir ce que c'est que gérer une ville, par exemple. Ville.
Après, on peut mettre des nuances, c'est-à-dire...
Oui, et puis après, c'est l'électeur qui choisit. Hein. L'électeur sait qui est candidat, combien de mandats il a ou il n'a pas, donc c'est la liberté de l'électeur.
Vous en pensez quoi, les uns et les autres, de ça, de
remettre... Je ne suis pas tellement d'accord. Non. Même si, effectivement, on constate qu'il faut que les députés soient ancrés au niveau local, donc ils peuvent être conseillers municipaux, mais ils ne peuvent pas être maires, parce que maire, c'est vraiment à plein temps, même si on leur retire des compétences et on leur retire des dotations.
Ça dépend des villes.
Ouais, je pense que ça dépend vraiment des villes. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai été confronté, puisque je travaille beaucoup avec les collectivités territoriales et communes, et notamment récemment avec la ville de Saulieu, où la députée maire a été obligée d'abandonner son mandat de maire, alors elle a fait tellement pour la ville, etc. C'est une petite ville, hein, donc c'est la ville de Bernard Loiseau, et de François Pompon aussi, donc c'est pour ça que j'étais concerné. Et donc, c'était triste, parce que du coup... on est obligé de nommer quelqu'un d'autre à sa place. Enfin,
c'est des gens qui étaient ancrés, qui étaient aimés,
qu'on aimait voir. Et même, il y avait un regret, je pense, même...
De la part des habitants.
Des habitants, qu'elle parte. Elle était obligée de partir. Elle m'a dit, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ouais. Et donc, moi, je suis assez d'accord. Mais je pense que peut-être qu'effectivement, il faut qu'il y ait peut-être par rapport à la taille de la ville.
C'est-à-dire que le maire de Toulouse... C'est peut-être plus compliqué pour lui d'être maire et député, mais on peut peut-être mettre un seuil du nombre d'habitants. Voilà. Tu veux
Il y a surtout quelque chose, je pense, de très sain à être maire. Mmh. C'est-à-dire que ça apprend aussi à gérer les cordons de la bourse d'une commune.
Parce que les communes, il faut rappeler ça, les communes n'ont pas le droit d'être en déficit de fonctionnement.
Et donc, quand on reproche souvent aux députés de parfois être un peu déconnectés de ce qui se passe vraiment dans leur circonscription, à la limite, un maire n'aura jamais ce problème, parce que lui-même gère vraiment toutes les problématiques de base, jusqu'à la voirie. Donc, je pense que c'est aussi bien, quand on fait de la politique et quand on fait la loi, de ressentir
au plus près
de soi.
Alors peut-être que ça fera partie des questions, des choses qui seront soulevées lors du grand débat.
Si vous permettez, il y a quand même, moi je connais un maire qui est président d'Aglo et vice-président du conseil départemental, donc c'est un professionnel, ça fait 30 ans qu'il fait ça, ou 25 ans, peu importe. Je pense qu'il faut aussi que ces personnes-là, de temps en temps, puissent un peu travailler pour ne pas se couper aussi de la population. Donc le cumul... Je ne suis pas favorable, évidemment, en tant que président d'une association anti-corruption.
Mais j'entends bien que localement, il faut qu'il soit présent quand même.
Comment ?
Il y a écrêtement. C'est-à-dire que quand on cumule les fonctions et les mandats...
Alors écoutez, ça tombe bien parce que Gérard Larcher, justement, quand je faisais partie de l'association anti-corps, avait oublié d'écréter et qu'il avait
C'est
dû...
très mal.
Et à Rambouillet, il avait dû rembourser l'argent...
Il faut expliquer. L'écrètement, ça veut dire que...
Oui, on ne peut pas toucher plus de 9 000... Enfin, quelque chose comme ça.
Plus d'une certaine somme.
Allez, Jean-Luc, votre coup de cœur, coup de gueule. Et c'est surtout des coups de gueule.
Si vous voulez, grâce à Sud Radio, je reçois pas mal d'informations par courrier... oblitéré ou pas, et j'en ai reçu une, enfin j'en ai reçu deux quasiment deux jours de suite, une dont je peux pas parler parce qu'il y a une enquête voilà, mais l'autre c'est l'évasion fiscale du groupe Kering, Gucci, Saint-Laurent, qui se monte à 2,5 milliards d'euros, donc quand on dit qu'il n'y a pas d'argent et que les riches, entre guillemets, parce que c'est présidé par François-Henri Pinault, une grande fortune aussi, et ben ces 2,5 milliards d'euros devraient être, comment dire, ramenés dans les, au niveau de la France, parce qu'il a aussi fraudé en Italie. Donc là, on est en train de voir avec notre association de savoir s'il y a quelque chose à faire, mais je remercie...
Il y avait eu une enquête d'Élise Lucet et de Mediapart dans Cash Investigation qui expliquait le mécanisme de... là, pour le coup, vraiment
mais
d'évasion fiscale.
Ce collectif de, contre la fraude fiscale qui m'a envoyé 17 535 signataires a constaté que le parquet national du financier ne s'était pas trop préoccupé de cette question-là. Donc, je lance un appel au parquet national financier. Mais s'il y a besoin, on le fera nous-mêmes.
Juste, je continue le tour de table, mais ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Quand on cherche de l'argent, on peut en trouver. Hier, vous savez, c'était la dernière journée d'Olivier Schramek, président du CSA. Et alors, lors de cette allocution, qui n'a pas été reprise, d'ailleurs, la lettre pro dit qu'elle n'a pas voulu faire de papier parce que le CSA avait dit qu'il y avait des propos on et off. Et donc, on veut relire les papiers avant que vous les publiez. Donc,
vive le CSA.
Voilà, vive le CSA. Bon, un peu étrange. Et donc Olivier Schramek hier a affirmé en public que la revente de la chaîne numéro 23 SFR était, je cite, je mets des guillemets, une manœuvre frauduleuse et une spéculation amorale. Bref, l'addition, 90 millions d'euros pour les Français.
Article 40,
Oui.
Olivier Schramek, dans sa fonction de président de CSA, est obligé de saisir le procureur de la République s'il pense qu'il y a des faits délictueux commis.
Il avait 5 ans pour le faire, ou 6 ans pour le faire. Le dernier jour, le jour de son départ, il annonça. Peut-être que son successeur le refera, mais enfin, ça a coûté 90 millions d'euros. Enfin, ce sont les Français qui ont perdu 90 millions d'euros dans cette affaire. Richard Orlinski, votre coup de gueule.
Oui, moi c'est un coup de gueule. En fait, c'est pour ce que je vois en ce moment à la télévision, la politique politicienne qui est menée. C'est que on est d'accord qu'on est sur une, on est dans une crise de la démocratie et des crises en réalité. Il y en a dans les couples, il y en a dans les entreprises, il y en a dans les familles. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'écouter, de s'entendre, de trouver des compromis, de trouver des solutions. Et j'en ai marre de voir, en fait, soir après soir, jour après jour, des hommes et femmes politiques de tous bords, d'ailleurs, de tout âge, en fait, se balancer à la figure des éléments de langage, être systématiquement contre les uns les autres, sans s'écouter du tout. On a l'impression que c'est une cacophonie complète. Et je pense que, là, bon, c'est pas ce qui va sortir du grand débat, mais je pense que si on n'essaye pas de trouver d'être un peu plus constructif, ou qu'on ait des hommes et des femmes politiques qui soient plus constructifs, je parle en tant que citoyen, pour trouver des solutions, et amener des choses et s'écouter un petit peu, parce que c'est un peu l'idée, on va pas aller loin. On voit déjà des gens qui refusent le grand débat, qui refusent d'aller là, qui refusent d'aller là.
Je suis assez d'accord avec vous. Ce matin, j'ai entendu un auditeur, c'était pas sur Sud Radio, mais bon, on zappe, on écoute toutes les radios, qu'on interrogeait sur la baisse du prix des autoroutes. Vous savez que la société des autoroutes a proposé de faire une réduction de 30% aux abonnements. Et lui disait non, c'est pas assez, moi je continuerai à prendre la départementale. Donc on lui disait mais 30% c'est quand même pas mal, qu'est-ce que vous voudriez? Il dit 80%. Bon, il y a un moment, il n'y a pas de dialogue.
Laisser le groupe Vinci, ça réglerait peut-être le problème, parce qu'il se gave ces grandes concessions sur l'autoroute.
Mais ils font un geste, là. Il y a un geste qui est fait. Timothée,
non, mais ce que vous dites sur le fait que les politiques ils ne cessent de s'opposer des éléments de langage, ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit en télévision, au moment où ils font des interviews, parce que là, ils font de la vraie politique politicienne, ils ont besoin de rassembler leurs troupes. Mais contrairement à ce qu'on croit, très souvent, en commission, à l'Assemblée nationale, vous avez beaucoup de députés de bords très différents qui, quand même, continuent de travailler ensemble, font la loi ensemble. Alors, bon, certes, aujourd'hui, ils sont très décriés, mais il ne faut pas croire non plus que le politique, en tout cas, le député, ne travaille jamais, ne fait que des plateaux télé.
Mais moi, je ne dis pas ça, mais je dis nous ce qu'on regarde. Enfin, oui, le commun des mortels, on regarde ce qu'on regarde.
Pour les citoyens.
Les citoyens, ils regardent à la télé, c'est ce qu'ils voient à la télé. C'est que des fois, j'ai envie de zapper. Enfin, ils sont même des jeunes qui se disent bon.
Il y a, je pense, évidemment, une part de responsabilité des politiques. Il y a aussi une part de responsabilité des médias, notamment sur les chaînes de news en continu, qui sont tout le temps, finalement, à chercher le buzz, le clic, et donc, finalement, exacerbent aussi cette opposition et ont tout intérêt à faire la preuve, en fait, toujours des plateaux, à créer des oppositions.
Ouais. C'est ça qui est plus intéressant. On détruire l'autre pour prêcher pour sa paroisse, ça coûte que coûte.
C'est cruel, la politique. Hein, et puis, ces chaînes d'information continue, ça marche fort. Il y a de l'audience, donc les gens, ça les intéresse.
Absolument, mais ça les intéresse et ça intéresse nos auditeurs aussi qui nous appellent tous les jours. On a des réactions sur ce que vous disiez, Judith, sur les maires, sur le cumul des mandats. Geneviève nous dit on porte les maires au nu. Juvignac, petite commune de l'Hérault, proche de Montpellier, urbanisation sauvage, 8000 habitants en 2014, 14000 en 2018. Depuis, quartier devenu inondable. Donc oui, c'est vrai qu'on a aujourd'hui tendance à.
Il faudra qu'elle vote contre lui à la prochaine.
Mais voilà, les élections, c'est la meilleure des réponses.
Les maires, je pense que c'est les personnes élues les plus de proximité par rapport à la population. Mais quand vous assistez, et moi je le fais régulièrement dans mon conseil municipal, j'ai une ville, le maire autorise le public qui vient un peu plus nombreux qu'en moyenne parce qu'il a la parole, il pose des questions. Mais la plupart des maires refusent la parole. Et quand je dis le maire, c'est aussi le président du conseil départemental, conseil général. Le public qui assiste a le droit de la fermer. Donc si vous voulez, tant que on n'aura pas une ouverture, une véritable démocratie, les élus se pensent un petit peu qu'ils ont la science infuse. Il faut donner la parole.
Pardon, il ne faut pas faire de généralité. Il faut vraiment prendre quasiment du cas par cas. Moi, je connais beaucoup de maires qui, par exemple, font des assemblées générales dans les quartiers. Alors, ils tournent au fur et à mesure des conseils municipaux et ils demandent aux gens qu'est-ce que vous avez envie de voir aborder comme sujet.
Il y en a plein. C'est un peu le rôle du maire quand même aussi.
Oui, tout à fait.
On se retrouve.
Il y a pratiquement autant de pratiques que de maires.
On se retrouve dans un instant et il y aura le coup de cœur de Timothée Gaget et on se retrouve pour parler du grand débat ou des manifs. Quid de cet acte 10 demain. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Je vous rappelle qu'à midi, vous retrouverez Christophe Bordet, Philippe David et Philippe Bilger qui seront en direct de Souillac pour les vraies voix. Ils lanceront le vrai grand débat. On va en parler de ce grand débat dans un instant. Mais juste avant, Timothée Gaget, votre coup de cœur.
Bien écoutez, mon coup de cœur, c'est la probable désignation de François-Xavier Bellamy, qui est un jeune philosophe, conseiller municipal de Versailles, désignation comme tête de liste LR aux européennes. Alors,
donc pas un politique.
Voilà, c'est pas. D'ailleurs, mon propos n'est pas de faire un soutien à ces idées. C'est juste que je pense que c'est bon dans une période où on a un peu le macronisme face à rien, que les partis d'opposition se réétoffent. Ça vaut tant à gauche qu'à droite. Et le grand parti de droite qui a pu être l'UMP puis LR était complètement dézingué depuis la présidentielle avec un clair manque de soutien de Wauquiez, une partie qui est partie. Rejoindre Emmanuel Macron. Et je pense que mettre à la tête d'un parti de droite quelqu'un qui n'est pas un pur politique, mais qui est un philosophe, qui est un pédagogue, qui certes est conservateur, mais va défendre des idées, ça va peut-être redynamiser l'opposition et donc faire émerger des idées nouvelles. Et je pense que c'est bon en démocratie qu'il y ait des corps intermédiaires avec des partis forts.
Oui. Judith, Feintraub.
Alors, moi, je trouve ça très bien de venir avec des idées et j'espère que ça enrichira effectivement le débat. Du point de vue stratégique, pour Laurent Wauquiez, je pense que c'est une erreur. Pourquoi une erreur ? Parce qu'il est dans une situation d'extrême fragilité. Il n'est pas vraiment contesté parce que les contestataires sont ailleurs. Xavier Bertrand est parti, Valérie Pécresse.
Non, mais en interne, on entend bien que c'est un soutien un peu contraint et forcé.
Ça ne marche pas, ça n'accroche pas, il est inaudible. Le soupçon d'insincérité qui pèse sur lui n'est toujours pas dissipé et pour cause. Il y a eu l'épisode, j'ai jamais mis de gilet jaune, on a tous vu que, en fait, si. Alors, bon, tout ça est mineur, tout ça n'a aucun intérêt, mais n'empêche que Laurent Wauquiez est dans une situation où sa crédibilité à mener un jour la première opposition à Emmanuel Macron est lourdement entamée. Et une crédibilité, ça se regagne comment ? Ça se regagne au combat. Ouais. Au combat, y compris quand on perd, d'ailleurs. Mmh. Et je crois que même une défaite, mais une défaite que lui aurait essuyée en menant les troupes à la bataille, ouais. Aurait mieux valu.
Oui. Commentaire ? Non ? Bon. On va passer au grand débat. Emmanuel Macron remet ça, le chef de l'État, donc ce soir sera à Souillac, dans le Lot. Je rappelle qu'il avait fait 71% de voix. 71%, oui, à Souillac, lors de l'élection présidentielle. Donc après, trois jours après le premier marathon, alors jugé réussi par les uns ou non par les autres, 7 heures d'échange. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? En tout cas, c'est un président qui montre qu'il a envie de reprendre la main. Est-ce que ça va suffire ? Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres, ce Tour de France
Il fait le Tour de France des élus locaux qu'il a pendant 18 mois méprisé. Et que toute la population, même des élus d'opposition, parce que je crois qu'à Rouen, dans la Normandie, il y a eu un député, je crois, ou en tout cas quelqu'un proche du Parti communiste qui n'a pas pu entrer dans le... avec les 600 maires, bon, ou que des gens qui ont voulu poser des questions dérangeantes n'ont pas pu le faire non plus. Mais les gilets jaunes, pas de délégation ou une délégation avec Madame Wargon, hein, qui vient aussi d'une grande multinationale.
Elle a plus le droit. Elle a plus le droit de faire de la politique.
Non, mais il y a beaucoup de lobbyistes, si vous voulez.
La question, c'est
où sont les citoyens dans cette affaire-là. Et puis.
Donc vous vous dites, il faut qu'ils parlent avec les gilets jaunes.
Le grand débat, si ça avait été avec Chantal Jouanneau, on lance le débat et les citoyens parlent. Il a pas besoin de faire sa campagne, quoi. Ouais. C'est quoi?
Richard Orlinski, vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose, puisqu'on critique, on dit qu'on a rien n'a été fait pendant... Il y a bien un moment, s'il y a une prise de conscience, après, il faut toujours... Je pense qu'il faut être à l'écoute. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, aller à la rencontre...
Des maires.
Aller à la rencontre des maires, de...
Est-ce qu'il peut faire...
Fédérer, c'est montrer... Alors, peut-être qu'il est un peu galvanisé, je sais pas... De toute façon, la base, c'est le président des Français, il doit s'occuper des Français, donc peut-être qu'effectivement, il y a une défaillance. Moi, c'est vrai, c'est possible.
Je crois que pendant deux mois, il a entendu
ce que ça ressemble. Mais est-ce que ça ressemble plus à une campagne que finalement, qu'à une main tendue ?
En tout cas, ça y ressemble.
Alors, c'est entièrement une campagne.
Oui, c'est une campagne.
La République En Marche va distribuer 1 million de tracts pour défendre les réformes adoptées depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'étonne beaucoup dans la plupart des commentaires, c'est que on salue la performance d'Emmanuel Macron. Bon, très bien, il a été très bon, grande vélocité intellectuelle, grande aisance, connaissance
grande endurance.
De tous les sujets, grande endurance.
Pas trop de petites phrases.
Mais ce n'est pas une victoire politique.
Non,
c'est
non,
pas
non.
un jugement politique. Il ne faut pas confondre l'appréciation sur une performance individuelle et l'appréciation politique.
Mais il y a un
pour
enjeu
l'instant,
quand même.
Pour l'instant, comme
bah oui,
disait
Jean-Yves,
il y a un enjeu ça marche pas, c'est un échec. Au bout de ça, il y a un échec.
D'accord, mais pour que ça marche, déjà, il faudrait s'adresser aux gens qui sont concernés, à savoir les gilets jaunes. C'est quand même eux.
Donc vous verriez quoi, Judith ? Un meeting avec des gilets jaunes ? Avec un échange avec des Français ?
Heureusement, je ne suis pas chargée de la com' de l'Élysée.
Non, les gilets ne sont même pas d'accord sur ce sujet.
Mais il faut évidemment introduire les gilets jaunes dans le circuit d'une façon ou d'une autre. Et Emmanuel Wargon, que vous attaquez pour son passé, l'a dit à Emmanuel Macron. Quand ils ont dîné ensemble, tout un groupe, après sa première prestation.
Alors, on se retrouve dans un instant, et Timothée Gaget, c'est le teasing de la pub à chaque fois. Vous aurez la parole, 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio, avec Richard Orlinski, artiste contemporain, sculpteur, musicien, auteur, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, Timothée Gaget, conseiller en communication et dirigeant de l'agence Artshare, et Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain contre la Corruption. Donc, question, irez-vous demain manifester ou participerez-vous au grand débat ? Juste, Timothée Gaget, quand même, un président en campagne, c'était notre débat précédent. Il est en campagne, il est sincère dans sa démarche. Ce soir, il sera à Souillac, je vous rappelle.
Il est en campagne, c'est aussi tactique vis-à-vis des élus. Il sait très bien que les maires sont les derniers élus dans lesquels les Français ont confiance. Il y a eu un sondage qui était paru il n'y a pas longtemps. Les cotes de confiance des Français...
Oui, c'est Vipoche chez nous.
C'était 23% Assemblée nationale, alors 58% chez les maires.
Ouais.
et même 20% dans les médias. Donc vous voyez, vraiment, le maire, c'est la dernière personne un peu institutionnelle en qui les Français ont confiance. D'où l'intérêt pour Macron de les reconquérir, car il avait vraiment distendu son lien. Il avait des très mauvais rapports avec l'AMF, l'Association des maires de France. Pourquoi ? Pour deux raisons aussi. Parce que l'AMF est présidée par Baroin, qui est un LR, et vice-présidée par André Léniel, qui est un PS. Donc il voulait aussi bypasser cette association, car il trouvait aucun relais macronien dans les maires de l'AMF. Et donc là, il refait une conquête de terrain. Moi, ce que je trouve un peu étonnant dans ce fonctionnement démocratique, c'est normalement la voix des Français est portée par les députés, et les députés font la loi et on décide de l'avenir du pays. Là, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il va voir les maires, après les gilets jaunes vont faire leur débat entre eux, parfois avec le maire, parfois avec le préfet, parfois avec une décentralisation de la commission. On va reprendre toutes ces boîtes à idées, on va les faire remonter au gouvernement, qui va refaire des lois, qui va faire valider par les députés. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un circuit au niveau de la prise de décision qui est assez complexe.
Il y a deux sujets que les maires sont très intéressés, c'est la loi NOTRe avec le transfert de compétences avant la fin de l'année. Il y a beaucoup de communes rurales et des petites communes qui souhaitent que le transfert soit reporté de 2020 à 2026. Et puis les dotations, qui ont quand même beaucoup diminué. Donc, si les maires posent leurs propres revendications et qui ont un effet sur leurs concitoyens, puisque les dotations, c'est aussi peut-être des projets que les maires peuvent faire. Donc tout ça est assez étonnant et je suis assez d'accord que tout ça n'est pas bien cohérent.
Surtout que je pense que les revendications des maires sont très
différentes,
sont quand même assez différentes de celles des gilets jaunes, puisque par définition, c'est on nous a pas transféré assez de fonds pour gérer convenablement notre commune, nos routes, nos écoles, alors que les revendications des gilets jaunes sont purement nationales et surtout très fiscales, très pouvoir d'achat, très démocratie plus directe. Donc
donc ça rejoint ce que disait Judith tout à l'heure, il faudrait discuter directement avec les gilets jaunes.
Surtout la taxe d'habitation en plus.
Bah voilà.
Donc c'est les finances en moins pour les collectivités.
Exactement.
Oui, avec une promesse de ressources propres, parce que ça, je rappelle que c'est aussi inscrit dans la Constitution. Les maires, en tant que président de collectivité locale, doivent avoir accès à des ressources. Je ne sais plus quel est le terme exact dans la Constitution. C'est quelque chose comme sensiblement indépendante de l'État central. Donc là, attention, il y a quand même une saisine du Conseil constitue à l'horizon si Emmanuel Macron ne respecte pas sa promesse de remplacer la TVA par une taxe dont les maires pourraient fixer, pas seulement le taux.
Alors, ce week-end, irez-vous manifester ou irez-vous débattre ? Les Gilets jaunes se préparent, vous le savez, à l'acte 10, malgré le lancement du grand débat. Donc, les Gilets jaunes s'organisent sur Facebook, prévoient de se rassembler à Paris. Éric Drouet à table sur 1 million de manifestants.
Il est à la Mélenchonite, ça y est.
Voilà. Donc, faire parler les Français, faire le pendant aux Gilets jaunes qui seront tous de sortie samedi, c'est le pari que fait le gouvernement, qui incite les maires à organiser le maximum de réunions d'ici dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Richard ? Vous irez débattre, manifester, Richard Orlinski ?
Non, je ne pourrais pas, malheureusement, je ne serai pas là ce week-end. Mais sinon, débattre... non, moi, je pense que le débat, c'est bien. C'est une alternative qui est proposée. Et d'ailleurs, j'ai quand même regardé la télévision hier. Et il y a quand même aussi, dans le rang des Gilets jaunes, des gens qui étaient prêts à... qui était prêt à débattre, donc
c'est assez partagé. Ça peut être
je pense que voilà, il y a
c'est en même temps.
Voilà.
C'est
en même temps. Mais c'est ce que j'écoutais hier, en tout cas, c'est ce qui ressort. En tout cas, il y a des, parce que quand même, voilà, bon, il y a un mouvement qui s'est un peu essoufflé, et puis il y a des, voilà, c'est des propositions
essoufflé, mais avec un soutien très fort encore de la population, même en augmentation malgré les violences,
mais avec des gens qui écoutent aussi, qui ont envie de aussi de s'en... Il y a quand même des gens, parce que par rapport à mon premier coup de gueule, il y a quand même des gens qui ont envie de s'en sortir, trouver des solutions, qui ont envie de... On veut dire, il faut qu'on arrive à quelque chose.
Oui, Timothée, Gagé.
Surtout que... Enfin, je continuer à manifester pour manifester, il y a un moment, ça va devenir stérile. C'est-à-dire qu'on connaît leurs revendications. Ce qu'il faut, c'est peut-être en débattre, justement, au sein de la commune, et faire émerger des propositions un peu plus claires qui pourraient être débattues, pour le coup, à l'échelon supérieur. Mais je vois pas... Enfin, Je veux dire, demander une hausse du SMIC, la remise de l'ISF, enfin, est-ce que bloquer des ronds-points, est-ce que bloquer des centres-villes, parce qu'aujourd'hui...
Bah, c'est un moyen de pression, en tout cas.
Oui, ça met une pression, sauf qu'ils mettent une pression.
Les Gilets jaunes vous répondront que c'est grâce à ça
qu'Emmanuel
Macron a annulé la surtaxe des carburants.
D'accord, mais je pense qu'il y a... Enfin, quand on parle de pouvoir d'achat, là, ça commence, ça fait 10 semaines, vous avez quand même tous les commerçants des centres-villes qui ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires à Noël, ça continue.
Là, des pertes d'emplois, des boîtes qui vont fermer.
À la fin, ça commence à finaliser pas les plus riches.
Beaucoup plus cher. On a Denis en ligne avec nous. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Limoges.
C'est ça.
Et donc demain, vous ferez quoi? Vous irez débattre? Vous irez manifester?
Bah, je ne peux ni débattre ni manifester parce que je n'ai pas le temps. Hein. Ouais. Je suis occupé par mon travail. Hein.
Oui.
Et
vous faites quoi?
Façon, moi, je dis le débat, ça ne sert pas à grand-chose parce que je vous écoute, mais je ne ferai pas ce que vous me dites.
Oui.
Je suis président de la République, vous pouvez débattre de tout ce que vous voulez, je ne ferai pas ce que vous dites parce que je perdrai trop d'avantages. Hein, les avantages, ils ont su se les mettre, ils ne veulent surtout pas se les retirer.
Donc vous dites que tout ça ne sert à rien?
Ben, ça ne sert à que dalle. Il faudrait plus... Le titre de président de la République, pour moi, n'est plus justifié.
Dans D'accord. La mesure... Donc, vous faites quoi comme métier, Denis?
Cuisinier, moi.
Pardon?
Je suis cuisinier.
Cuisinier, d'accord. D'accord. Moi, donc, c'est quoi la solution?
Ben, la solution, regardez, eux-mêmes, ils trichent. Eux-mêmes, ils trichent. C'est tous des tricheurs.
De qui vous parlez? Des politiques?
Ben, les politiques, ils veulent nous appliquer des choses qu'ils ne sont même pas capables de s'appliquer.
D'accord, mais alors la solution, c'est quoi?
Eh bien, on met les choses plus simplement. On n'empêche pas les gens de gagner de l'argent. Moi, ce qu'ils gagnent, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est ceux qui font de leur pognon. Parce que il a voulu une piscine, il a voulu changer la moquette, il a voulu changer la vaisselle, et il n'a pas senti un centime. C'est nous qui payons. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent.
Oui, elle disait.
On fout la vaisselle par la fenêtre.
Oui, alors, bon, merci Denis d'être intervenu. Jean-Luc Toulouse.
Alors, moi je suis gilet jaune depuis le début, je ne sais pas si je vais aller manifester. Le débat, je n'y crois pas, mais j'irai. J'irai parce que, d'abord, je voudrais voir dans ma commune qui va venir, parce que j'ai déjà organisé, avec l'accord du maire et des groupes d'opposition, sur des réunions, notamment sur le Grand Paris, de savoir si on optait pour le Grand Paris ou pas. Donc, et on a fait des débats et des consultations. Eh ben, il y avait une centaine de personnes sur 8000 qui sont venues à deux reprises, et il y a eu entre 10 et 20% de participation. Donc, même sur des sujets qui intéressent directement les citoyens, c'est toujours une minorité, la même souvent, donc des gens qui sont impliqués. Donc, en dehors de M. Macron, etc., le principe du grand débat décentralisé, c'est une bonne idée, c'est bien de débattre avec les citoyens, mais qui va venir? Parce qu'en fin de compte, la participation, elle est faible.
Oui. Timothée, quel jet?
Pour rebondir sur ce que disait votre auditeur, alors, dans le côté, on ne sait pas ce qu'ils font du pognon. Certes, l'État doit se réformer, il demande aux entreprises, il demande aux Français d'être flexibles, et peut-être que l'État doit aussi commencer à gérer mieux ses finances, il y a certainement trop de strates administratives. Après, il faut faire attention aux tous pourris, je veux dire, il y a le suffrage universel, vous élisez votre président, on a quand même des élections très régulières. Vous avez les maires, les départements, les régions, vos députés, bientôt les élections européennes. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas représenté en France.
On peut dire qu'il y a un problème de représentation.
Les gens ne vont pas voter.
Il éclate devant nos yeux en ce moment.
Les gens ne vont pas voter.
D'accord, mais enfin...
Alors peut-être qu'on ne leur a pas proposé l'offre politique
On ne peut pas contester que la cinquième modifiée, c'est-à-dire avec moins le quinquennat que les législatives qui procèdent de la présidentielle, font qu'en fait, en gros, l'Assemblée nationale ne peut plus faire son boulot. Elle ne peut plus faire son boulot qui est d'élaborer la loi parce qu'elle fait ce que lui dit l'exécutif, il n'y a plus de cohabitation possible, alors, sauf cas de figure extraordinaire où, à un mois d'intervalle, les Français choisiraient un président et une majorité parlementaire d'un autre bord, mais ça, je n'y crois pas beaucoup. Il y a un vrai déséquilibre institutionnel.
Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup dénoncé la cohabitation comme étant un frein au fonctionnement démocratique, et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous dites, on s'aperçoit que l'alignement... quinquennat de député, quinquennat présidentiel, fait qu'effectivement, la loi se discute moins au Parlement et plus élaborée dans les cabinets ministériels.
On a Philippe de Gironde en ligne avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Vous irez manifester ou débattre ?
Alors, moi j'ai déjà fait les 9 actes là déjà, ce week-end je travaille. Donc je vais manifester dans ma tête avec mes collègues gilets jaunes. Mais par contre, oui, j'irai à l'acte 11 s'il y en a pour l'instant. Parce que je suis d'accord avec vos deux derniers intervenants. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui participent au débat. Alors déjà, le débat, je pense qu'il est complètement faussé parce que les maires, ils présentent leurs doléances, pas les doléances des gilets jaunes. Ça, c'est une part déjà. La deuxième part, c'est qu'effectivement, tous les gens qui participent au débat, c'est toujours les mêmes. C'est des gens qui sont engagés politiquement, qui ne représentent pas les gilets jaunes, qui ne vont pas participer au débat classique, je reconnais, ça c'est vrai, mais parce qu'ils ont autre chose à faire et puis ils sont pas politisés, si vous voulez. Alors, et dernier, surtout le dernier point de Madame Judith Vendrauve, là. Alors ça, c'est vraiment, en fait, c'est le point crucial, c'est-à-dire que moi, j'arrêterai d'aller aux manifestations au moment... le RIC, c'est bien, si vous voulez, mais moi j'arrêterai le jour où il y aura la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire parce que là, vraiment, il y a vraiment un gros problème. Si on avait mis la proportionnelle intégrale dès le début, pour les dernières élections législatives, déjà on n'aurait pas ce mouvement des Gilets jaunes, c'est sûr. Parce que en fait, les Gilets jaunes, ils sont dans la rue parce que leurs représentants, ils sont pas dans l'Assemblée.
Ils sont pas représentés.
Mais c'est clair. Ça, c'est, on en parle très peu, si vous voulez, mais c'est l'axe numéro un. Quand je vois que pendant le débat avec les maires en Normandie, la proportionnelle, j'ai écouté tout le débat. J'ai entendu une fois parler de proportionnelle, mais on est à des années-lumière des attentes. Le RIC, si vous voulez, c'est une dérivation de la proportionnelle.
C'est une manière de faire participer plus directement les Français.
Le RIC, c'est un artefact qui a été trouvé par des gens sûrement bien intentionnés, mais la vraie réalité constitutionnelle, la vraie représentation, elle se ferait à la proportionnelle. Les trois quarts, on est un des seuls pays qui a encore le scrutin majoritaire de tour.
Alors on va réagir à ce que vous venez de dire, Philippe. Merci de nous avoir appelé. La proportionnelle, la solution pour vous, Richard Orlinski?
Ouais, je sais pas si c'est vraiment une solution, la proportionnelle.
Ouais. Non, c'est peut-être pas forcément...
Ça serait quand même la démocratie, puisque quand on voit que le Rassemblement National aujourd'hui et la France Insoumise représentent plus de 40% et que détiennent quoi, une vingtaine de députés, alors que La République En Marche, qui a fait au premier tour 24%, a plus de 50% de députés, déjà ça va pas. Donc, je vois pas pourquoi on utilise l'argument, pour ceux qui sont contre, de la 4e République, en disant oui... Mais en Allemagne ou dans d'autres pays, on fait des alliances. Justement, ça éviterait peut-être les conflits. Parce qu'il faudrait, évidemment...
Dites ça, on y est la Merkel. Ouais.
Ah ben oui, mais ça...
Bon, elle a tenu longtemps,
ça
quand même.
Voilà, oui, elle a tenu très longtemps.
Et ça a duré, ouais.
Non, en plus, je dis ça, mais je suis tout à fait pour. Parce que, y compris quand ça prend des mois, rappelez-vous, quand Angela Merkel a constitué sa dernière coalition, ça a mis des mois.
On
se met d'accord sur un programme. On ne dit pas, toi, ta tête me revient, je te prends avec moi dans ma majorité. Ouais. Or, c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait avec les personnalités de droite qui l'ont rejoint. Elles sont venues sans leur programme, sans leur valise, elles sont venues sans rien.
Allez, on se retrouve dans un instant, on aura Fred de Béziers avec nous. On parlera également des flashballs, comme le défenseur des droits Jacques Toubon l'a demandé. Faut-il interdire ces lanceurs de balles de défense? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est en direct avec vous jusqu'à midi. À midi, vous allez retrouver les vraies voix, Christophe Bordet, Philippe David et Philippe Bilger, qui seront en direct de Souillac, où il commence à y avoir des échauffourées, puisque la petite commune est devenue un véritable camp retranché. Des gilets jaunes veulent pouvoir rentrer, des manifestants ont envie de pénétrer dans la ville, et visiblement, c'est extrêmement compliqué.
Et les habitants aussi.
Oui. Oui, oui, les habitants en premières échauffourées entre forces de l'ordre. Le sénateur Pierre Charron dit Souillac était connu pour sa prune de Souillac, pas pour son palais retranché. Le grand hashtag, le grand débat national que 2 Français sur 3 refusent. Fred, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous. Merci
bonjour.
De nous recevoir sur votre émission.
Ben, on vous écoute. Qu'est-ce que alors, vous ferez, vous, demain?
Moi, demain, eh ben, j'irai au débat.
Oui.
J'irai au débat. Et par contre, là où je voulais intervenir, c'est que de maintenant, ça fait une semaine, ça fait même plus d'une semaine, tout le monde parle de ce débat, mais personne ne donne de solution. Il n'y a personne qui donne de solution. Moi, j'habite Béziers. J'ai eu monsieur le maire au téléphone. On l'aime pas, monsieur le maire. Moi, c'est un très
Robert
bon maire
Ménard.
Pour moi. Robert Ménard, monsieur Ménard. Donc pour ma ville, il fait tout ce qu'il faut, donc je voterai encore pour lui la prochaine fois. Je l'ai eu au téléphone, on va se rencontrer la semaine prochaine. Pour moi, je pars sur un principe où c'est le pouvoir d'achat qu'on veut, c'est pas tout le reste, c'est le pouvoir d'achat. Tout le monde fait des cagnottes. Pour l'un, pour l'autre. Alors moi, j'ai proposé à monsieur Ménard, sur Béziers, on doit être à peu près 300 000 habitants. Vous vous rendez compte si chaque habitant donne 50 centimes d'euros. C'est pas beaucoup, 50 centimes d'euros. Puisqu'il y en a qui ont donné 20 euros pour les cagnottes qui sont passées, les 2 cagnottes qui sont passées. Ouais. Donc, si on prend 50 centimes d'euros pour les habitants... Voilà, ça fait 150 000. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Pour, et
79 400 habitants à Béziers.
Oui. Voilà, non, mais l'agglomération.
L'agglomération. Et donc
voilà, 150 000. Donc, si vous voulez, chaque habitant qui est là à Béziers depuis... il va falloir qu'on définisse tout ça avec M. Ménard, qui a plusieurs... qui sont, par exemple, depuis 5 ans sur Béziers ou 10 ans. C'est chaque habitant va donner 50 centimes. Qui reviendront à un seul habitant. Il faut voir comment on va mettre ça en place.
C'est une sorte de loterie, quoi.
Voilà, une sorte... Non, mais un tirage au sort, ou pas... Ou bien, une loterie, ou un tirage au sort, comme vous... Oui.
Mais aussi, là, vous ne réglez pas le problème du pouvoir d'achat de
oui, c'est
de
l'auto.
Ceux qui...
La
française des jeux. C'est de tous les habitants.
Bah, aux États-Unis, attendez,
pour la santé, c'est un peu comme ça.
Vous vous rendez compte si les communes font ça? Tout le monde pourra être propriétaire à un moment donné et tout le monde ira bien.
On va faire
quoi,
une cagnotte.
50 centimes.
Oui, oui. Ben, non, mais tout le monde. Non, mais vous apportez des solutions. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont des solutions. Les solutions, elles doivent. Vous dites qu'il n'y a pas de solution. Le grand débat doit normalement en amener, même si vous êtes assez sceptique.
Moi, je voudrais. Ça me donne l'idée de dire pour Monsieur Griveaux, je pense qu'il faudrait faire une cagnotte également.
On rappelle que Benjamin Griveaux a déclaré hier qu'il n'était pas assez riche pour être propriétaire
à
Paris.
Je pense que vraiment faut l'aider.
Il gagne
là,
10 000 euros brut.
Il doit louer un petit appartement à Paris dans un mauvais quartier. Enfin bon. C'est triste, quoi.
Il gagne 10 000 euros brut, il en gagnait 28 000 quand il était avant dans une banque. Il dit qu'il n'est pas héritier et qu'il n'a pas les moyens de se loger à Paris. Donc, cagnotte pour M. Griveaux. On a en ligne avec nous Didier. Bonjour Didier.
Oui, bonjour. Voilà, merci de m'accueillir. Je suis maire d'une petite commune de 120 habitants dans l'Hérault.
Ouais.
Et bon, quand vous avez dit sur votre émission que le cumul des mandats, c'était possible, moi actuellement pour 120 habitants, je n'ai pas de directeur, j'ai personne derrière moi, et ça m'occupe à peu près 25-30 heures par semaine. Donc je ne vois pas comment on pourrait faire si on veut vraiment gérer une commune, être le maire vraiment d'une commune parce qu'on a été élu, on puisse être député, sénateur ou tout ce que vous voulez. Sinon, après, ce sont des directeurs qui gèrent ou des adjoints, ainsi de suite. Ce n'est plus la personne qui a été élue qui va gérer une commune.
Ouais.
Parce que pour bien la gérer, il faut être vraiment présent au niveau des habitants.
Au quotidien.
Et puis, on a beaucoup de ces décisions à prendre.
Alors,
voilà.
Alors Richard voilà. Orlinski, vous voulez réagir à ce qu'il
Oui, moi, je disais que oui, mais c'est un cas particulier. Effectivement, dans votre cas, c'est vrai que c'est compliqué, mais après, il faut voir, je pense, ça au cas par cas et qu'après, c'est différent dans chaque commune. Là, en l'occurrence, je comprends votre propos et que pour vous c'est complètement impossible, mais quelque chose qui est peut-être pas valable.
D'autres maires qui le réclament, c'était un lien.
Sur les 36 000 communes, c'est quand même une grande majorité de petites communes.
Est-ce que vous avez un métier en plus, monsieur?
Oui, je suis viticulteur en plus. Voilà. Et je peux vous dire que quand on parle de SMIC, augmenter le SMIC, si on augmente le SMIC, moi, mon entreprise va être quand même assez en difficulté, puisque moi, ça fera plus cher. Par contre, les solutions qui ont été apportées, c'est de diminuer les charges au niveau de l'employé et diminuer les charges au niveau de l'entreprise. Je trouve que c'est la meilleure solution pour donner du pouvoir d'achat aux gens et ne pas impacter justement les entreprises. Oui. Ça, se trouve ça. Et après, par contre, quelque chose que je voudrais que tout le monde me critique, c'est qu'on dit Macron, tout ce que vous voulez. Je suis apolitique. Hein. Je vous dis, dans mon conseil municipal, j'ai tous les partis. Que ce soit extrême droite, extrême gauche, je parle de tout, j'ai tous les partis et on arrive à discuter. On discute très bien, on monte de gros projets, puisque j'ai 220 000 personnes qui viennent par an sur Minerve. Mais en plus, j'ai perdu le fil à force.
Vous faites trop de choses en même temps, monsieur le maire.
Voilà. Je fais beaucoup de choses. Je viens de faire une livraison, justement.
Ça pose la question effectivement.
On critique notre président. Je suis maire, je respecte le président. On critique notre président, mais il faut regarder que c'est 40 ans de conneries qui ont été faites depuis les années 77, qu'on est en déficit ainsi de suite, comme tout ce qui est au niveau représentativité. Tout le monde, on se base là-dessus, mais c'est 40 ans de conneries.
Je vous rappelle le titre de son livre, Révolution. Il avait annoncé Emmanuel Macron que tout allait changer. Enfin, il avait fait des promesses et peut-être que le boomerang qui lui revient dans la figure est proportionnel à l'espoir qui avait été mis justement dans un changement.
Mais peut-être que la tâche était peut-être aussi très compliquée aussi.
Je pense qu'à éloigner les Français de Macron, c'est parfois peut-être plus des problèmes d'attitude, des petites phrases. Il y a certainement aussi le retard ou en tout cas le temps pour avoir des résultats économiques. Les gens sont impatients. On peut pas, quand on réforme la France, on va pas avoir des résultats 6 mois plus tard. Mais en tout cas, on ne peut pas reprocher à ce président de vouloir faire des réformes. Il en a sans doute. On peut dire qu'elles vont dans le bon ou dans le mauvais sens.
Moi, je veux bien qu'on attende. Mais c'est quand même un président que les Français réformateur. Mais la première des choses qu'il a faites, c'est quand même l'abrogation de l'ISF. C'est le CICE. Alors avec des résultats, à mon avis, qui ne seront pas au rendez-vous. Et pour rebondir sur ce que vous disait votre auditeur, moi je suis toujours contre le cumul, mais pas de manière systématique. Mais ce cumul est exercé plutôt par les élus des grandes villes, qui peuvent évidemment, parce qu'ils ont des fonctionnaires territoriaux en grand nombre, occuper plusieurs fonctions. Et c'est pour ça que les communes rurales, qui sont majoritaires en nombre, sont extrêmement dépossédées de compétences et qu'il y a un fossé entre les grandes villes et les communes rurales. Encore un.
Oui.
Oui, non, sur les SF, moi je comprends très bien ce que dit monsieur qui parle en connaissance de cause. Hein, il sait très bien quel effet délétère aurait une augmentation du SMIC, par exemple. En fait, le problème, c'est un problème de conception générale, d'équilibre général. Quand Emmanuel Macron dit je vais alléger la fiscalité sur l'investissement, sur le travail. C'est très bien, sauf qu'il se rend compte un peu tard qu'allégeant la fiscalité, il lui manque des sous pour boucler ses fins de mois, pour boucler son budget. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il tape les retraités avec la CSG. Donc c'est le problème originel, ontologique de la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas prévu d'économie, de réduction des dépenses publiques qui lui permettait de réorienter la fiscalité.
Mais c'est pas l'ISF qui va remplir les caisses publiques.
C'est pas l'ISF, c'est rien. Non, mais c'est un symbole.
C'est beaucoup plus important.
C'est 3 milliards sur...
Oui, mais c'est 20 milliards par an.
C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Vous allez retrouver dans un instant Christophe Bordet, Philippe David et Philippe Bilger qui sont à Souillac, dans la salle communale du Bellay, boulevard Malvy, pour ceux qui pourraient s'y rendre. Je ne sais pas s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de sécurité. En tout cas, les vraies voix, c'est maintenant, 12h-13h, et puis à 17h. Et attention, et la prune est très bonne, effectivement. La prune de Souillac. Merci à tous les quatre. On se retrouve lundi pour d'autres émissions. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio.